Et on retrouve tout de suite Mélève et Malka, une émission qui vous est présentée par Bernard Aboif.
Bernard Aboif au micro, bonsoir à tous. Shabbat Shalom si vous nous écoutez le vendredi après-midi, notamment sur Facebook. Shavuot Tov si vous nous retrouvez à la radio le samedi soir à 19h. Kabbalat Shabbat, une grande émission de Torah et de pensée juive. Et nous sommes en ligne, comme chaque semaine, avec Rav Eli Lemel. Bonsoir Rav Lemel.
Bonsoir.
Bonsoir, comme on dit, Shabbat Shalom ou Shavuot Tov à l'un et à l'autre. Rav Eli Lemel, on avance dans notre paracha et donc on est dans Vayetse. Et Vayetse comporte, parmi les différents épisodes ou chapitres, comprend la fameuse histoire de l'échelle. Alors on connaît, Dieu vient voir en fait Avram par le biais d'une échelle. Et qu'est-ce que vous retenez de cet épisode? Et puis surtout, pourquoi avoir besoin d'une échelle? Excusez-moi, je ne voudrais pas passer pour un petit enfant, mais pourquoi il faut une échelle? Dieu, il vient comme mieux.
Exact, on est ici, dans une histoire, alors dans tous les GAN, en effet, on représente cette très belle histoire dans laquelle on voit Yaakov qui dort, le fameux symbole de toutes les pierres qui sont là, qui se rassemblent autour de lui, c'est quelque chose de merveilleux. Mais néanmoins, il y a quand même ici quelque chose de curieux, c'est, voilà, il est là, il va dormir, hein. Il va dormir, on dit que pendant 14 ans, il n'a pas dormi, traduction, il ne s'est pas couché pour dormir, et là, il va s'allonger, et puis il va arriver, « Lomine soulam », voici qu'il y a une échelle, « Mutsavartza », dit le texte, qui est posé au sol, « Voroshomagia shamaima », et dont l'extrémité arrive au ciel. Et les malachim, les anges, montent et descendent. Et Hachem est en haut, et lui dit, « Je suis l'Éternel, ton Dieu », la terre sur laquelle tu dors, elle est à toi, je te la donnerai à ta descendance. Donc Dieu s'engage à donner la terre d'Israël à Yaakov et à ses descendants. Et après, toutes sortes de bénédictions que Dieu donne à Yaakov. Alors évidemment, beaucoup, beaucoup d'interrogations sur ce verset. Tout d'abord, une petite remarque, et on y reviendra peut-être dans quelques instants, c'est que si vous prenez le mot « soulam », c'est-à-dire l'échelle, vous allez constater que ça a la même valeur numérique que le mot « Sinaï ». Qui est le lieu sur lequel la Torah va être donnée par la suite. On y reviendra, si vous voulez, un peu plus tard. En tout état de cause, c'est quoi cette idée d'échelle? Pourquoi est-ce que Dieu a-t-il besoin d'apparaître et d'annoncer à Abraham, pardonnez-moi, à Yaakov, que eh bien, sa descendance héritera de la terre? Et c'est avec une échelle qui est présente, et surtout Rashi qui nous dit que les anges montent et descendent. Alors, première explication, ce sont les anges qui l'ont accompagné jusqu'à la terre d'Israël, qui s'en vont, les autres qui reviennent, et puis les maîtres du Talmud qui nous disent oui, mais il y a aussi autre chose, c'est qu'ils montent, ils descendent, et puis ils voient la tête de Yaakov, et ils veulent le mettre en danger, il faut que Dieu intervienne. Donc il y a ici une histoire quand même assez surprenante qui est en train de se passer. Alors tout d'abord, rappelons-nous qu'ici nous sommes quand même dans le point d'entrée de ce qui va être l'engagement qu'Hachem donne de manière très claire et très formelle à celui qui va constituer la base du peuple juif, puisque nous, Yaakov, va avoir donc ses 12 Shvatim, ses 12 tribus. Il rentre en terre d'Israël, et là, Dieu lui dit la chose suivante, voilà, Soulam. Soulam, Soulam, Sinaï, le Soulam, l'échelle, Sinaï, le mont Sinaï sur lequel on reçoit la Torah. Au fond, la finalité de ce que je vais te dire, c'est que tout va tourner autour de ce qui va se jouer au Sinaï. C'est-à-dire que, comme le disent nos maîtres, Israël kutcha brichu v'oraitahu, le peuple d'Israël, le créateur de l'univers et la Torah font une seule et même entité. La terre d'Israël est le lieu par excellence dans lequel le peuple juif va devoir s'élever dans tous les domaines. Et Hachem dit, voilà, cette terre-là, au fond, elle a du sens, et l'engagement va démarrer avec quelque chose qui symbolise, à travers cette valeur numérique, on va voir pas juste à travers cette valeur numérique, le Sinaï. Le Sinaï, c'est le lieu dans lequel va être révélée la loi, va être révélée la Torah, va être révélé ce qui va être au cœur même de l'identité juive, même lorsqu'il ne sera pas sur sa terre, c'est ce qui lui permettra de survivre. Donc déjà, on a ici une première indication sur ce qui va être au centre, parce qu'on aurait pu imaginer, voilà, il y a un engagement de terre, donc on est dans un engagement de Dieu, que voilà, le peuple d'Israël aura un lieu, aura un pays, aura un État, Et puis c'est ça qui est essentiel. Et puis après, on va voir aussi arriver la Torah. Et là, pas du tout. Ce texte est en train de nous dire, attention, c'est autour du Sinaï que tout va se jouer. Et en même temps, ce soulam, nous dit le texte, il est mutsavartsa, il est posé au sol. On se doute bien que l'échelle, elle est posée quelque part. Si le verset nous avait dit, et l'échelle accédait au ciel, elle arrivait jusqu'au ciel, bon ben, c'est bien qu'elle est posée au sol. Non, on nous met bien ici en exergue qu'elle est posée au sol et que l'extrémité arrive au ciel. Au fond, entre autres, ce texte est en train de nous apprendre que toute l'histoire du peuple juif sur sa terre et autour de la Torah, elle n'est possible que dans la mesure où on se rappelle qu'on est posé sur le sol, sur la terre, c'est-à-dire que dans la mesure où on n'oublie pas d'intégrer notre réalité physique, corporelle, le fait que nous allons justement être des êtres sur la terre, avec tous les enjeux que ça représente, mais qu'en permanence, et l'image est simple, évidemment tout le monde l'aura en tête, mais la tête qui est tournée vers le ciel, c'est-à-dire que avec cette interrogation sur la finalité vers le lieu vers lequel on doit tendre, ce mouvement sans arrêt vers le haut. Et cette échelle, peut-être qu'elle elle est aussi là pour nous apprendre comment ça se construit. Sous l'âme, une échelle. Et bien sûr, une échelle, on est en mouvement. Je ne pense pas qu'on a trop l'habitude de s'installer sur un barreau d'échelle et de ne pas y bouger. Soit on monte, soit on descend. C'est un vecteur qui nous permet d'accéder d'un univers à un autre, c'est-à-dire ces points de passage avec en même temps ces échelons qui nous renvoient à l'idée de progressivité. On ne peut pas monter une échelle 4 à 4, on monte sur un échelon, puis un second, puis un troisième. Et il y a peut-être ici cette double dimension de progression et de progressivité. Et on a ici donc peut-être ce premier message que le texte est en train de nous dire, c'est-à-dire que lorsque Yaakov reçoit cet engagement que le peuple d'Israël va se retrouver sur sa terre, en même temps on est en train de lui dire, voilà, sache que l'enjeu du peuple juif sur sa terre, ça veut être d'abord de se rappeler que il y a un soulam, qu'il y a quelque chose qui permet d'accéder à une dimension supérieure, et cette chose-là, soulam, Sinaï, c'est la même valeur numérique, c'est ce qui va être révélé au Sinaï. Mais attention à cette possibilité d'imaginer que ceci ne va être qu'une démarche purement spirituelle et qu'il va falloir se déconnecter peut-être d'une réalité matérielle, qu'Israël serait peut-être comme une forme d'immense ashram, un lieu dans lequel voilà, on est déconnecté de la réalité du monde. Et pas du tout, Mutsav Artsa, la Torah nous dit bien, c'est posé au sol, ça s'inscrit dans la terre, avec cette tension permanente vers le haut. Et c'est vrai que la tension permanente vers le haut, le désir de progression dans tous les domaines, peut amener l'individu à un moment à voir la réalité de la vie terrestre au quotidien comme étant quelque chose qui n'a pas d'importance. Or justement, la Torah nous dit, non, attention, si l'échelle n'est pas posée au sol, eh bien évidemment, elle n'a pas de point d'appui pour pouvoir accéder au ciel, et c'est là où en effet on a cette premier enseignement avec ces malachim qui montent et qui descendent. Alors c'est intéressant parce que qu'est-ce qu'ils font ces malachim, qu'est-ce qu'ils font ces anges, ça veut dire quoi? On sait très bien que le malach, l'ange, c'est toutes les énergies qui sont présentes dans l'univers et qui sont là et qui sont soumises à la volonté du Créateur pour pouvoir remplir justement leur mission pour l'organisation de l'univers. Et nos maîtres de dire que ils montent et ils descendent, mais qu'est-ce qu'ils voient? En vérité, ils voient qu'il y a en bas un homme qui dort. Cet homme, c'est Jacob. Et puis, ils remontent parce qu'ils ont quelque chose à vérifier là-haut, parce qu'ils voient que sous le trône céleste est gravée justement la tête de Jacob. Alors évidemment, ce sont ici des... Enfin, on dit ces mots-là, mais c'est quoi le trône? C'est quoi la tête de Jacob gravée? Je ne sais pas ce que ça veut dire. Mais ce qui est sûr, c'est qu'en tout cas, il voit que celui qui est en bas... C'est le prototype de l'humain dans sa dimension la plus élaborée, la plus aboutie qui soit, puisque ça se trouve dans une proximité immédiate du Créateur de l'univers. Arrive-t-on encore en même temps à définir ce que ça veut dire? Et ils montent et ils descendent, et ils veulent lui faire du mal. Au contraire, c'est quelque chose de fou. Vous voyez justement, vous êtes face à cet individu qui symbolise la dimension la plus aboutie et vous voulez y toucher. Et c'est ça justement la difficulté des malachim, c'est que Jacob dort, c'est-à-dire qu'il est pendant une fraction de temps non tourné vers le Créateur de l'univers, il n'est pas dans une idée permanente de le servir, et on va voir qu'en vérité les anges font une erreur, si je peux m'exprimer ainsi. Au fond, ici les malachim, c'est-à-dire ces énergies qui ne sont qu'au service du Créateur exclusivement et qui ne peuvent pas imaginer faire autre chose, pour l'idée que l'on puisse, pour eux, pardonnez-moi, l'idée que l'on puisse à un moment faire autre chose que ce que le Créateur nous demande, que l'on puisse être tourné vers autre chose que de faire sa volonté, est quelque chose d'inimaginable, disent les maîtres du Zohar. Pour les malachim, pour les anges, il y a comme une forme de profanation du nom de Dieu, de pouvoir même imaginer à un moment fauter, qu'on puisse imaginer, c'est inimaginable. Comment peux-tu imaginer faire autre chose que ce que Dieu attend de toi? Et donc eux, en cette lecture du sommeil, et Dieu justement intervient, et justement Dieu le protège. Pourquoi? Parce que justement c'est ça le propre de l'homme. Tout d'abord, sa capacité à donner du sens à ce qu'il fait. Oui, Jacob dort, mais au moment où il dort, il est en train de s'occuper de ce corps qui est posé au sol pour que justement sa tête arrive au ciel. C'est-à-dire que même dans cette absence d'action, dans la mesure où il donne du sens, eh bien, ça a quelque chose d'élevé. Et ça, c'est ce que les malachim ne comprennent pas. C'est-à-dire que tout va dépendre du sens que l'on donne et que donc on peut s'inscrire dans un monde de la matière. Mais à partir du moment où on lui donnera une direction, il y a un sens, et on saura pourquoi on s'inscrit à l'intérieur et qu'est-ce qu'on veut en tirer pour pouvoir s'élever, eh bien les choses sont totalement différentes. Et c'est ça, au fond, tout l'enjeu de l'homme. Et c'est ce que Yaakov, au fond, ici, est en train de symboliser, ce qu'il est en train de dire. Et lorsque Yaakov se trouve là, à ce moment-là, eh bien c'est là où Dieu lui dit « Ta descendance se démultipliera comme la poussière de la terre, elle ira partout, dans toutes les directions. » Et intéressant de voir que ici, il s'engage à ce que justement ses descendants soient comme la poussière de la terre, alors que dans d'autres endroits, eh bien Dieu va lui dire ils seront comme les étoiles du ciel. Et là, c'est d'abord la poussière dont il parle, disent nos maîtres, parce que lorsque on est confronté à la poussière, on va parler de sable à un moment, eh bien cholayam, c'est quelque chose qui n'est pas grand-chose, que l'on peut avoir tendance à mépriser, cet humain qui est dans sa corporalité, cet humain qui n'est pas pur esprit, cet humain qui n'est pas pur intellect. Et Dieu dit, non mais justement, le afar haaretz, la poussière de la terre, c'est ce qui fait émerger les choses, c'est ce qui est capable de faire pousser, c'est ce qui est capable de créer quelque chose de nouveau, si on y enfouit ce qui est nécessaire. Et donc, c'est ce que Dieu est en train de dire aussi à Yaakov, sache qu'on est au fond... Ce que ces anges voient comme étant l'expression d'une petitesse, c'est ça au fond véritablement ta grandeur réelle. Donc, comme on vient de le voir, il y a tout un programme qui est proposé à travers ce rêve de l'échelle, et à nous de savoir évidemment nous en inspirer, c'est-à-dire se rappeler tout d'abord que nous ne pouvons pas nous déconnecter de notre réalité terrestre, que ce n'est pas quelque chose à mettre de côté, au contraire, elle est le support, que si on donne le sens à nos actions, même à du sommeil, eh bien c'est quelque chose d'élévation. C'est quelque chose, c'est un moment d'élévation, la notion de progression, la notion de progressivité, et savoir qu'en vérité, on doit, à partir de cela, faire émerger en permanence quelque chose. Et c'est avec cela, au fond, que Yaakov se réveille et qu'il va entreprendre la suite de son voyage pour retrouver celle avec qui il va fonder le peuple d'Israël sur la base, justement, de ce qui a été communiqué, de ce message qu'il a reçu au moment de ce rêve avec l'échelle.
Eh bien, on va essayer de suivre ce beau parcours, qui est un parcours, on a bien compris, vers le haut, mais tout en étant bien les pieds sur terre. Et je vous souhaite Shabbat Shalom et Shavuot Tov.
Shabbat Shalom, Shavuot Tov, plein de bonnes choses.
Et on part pour Jérusalem, où on le retrouve Rav Mordechai Biton. Bonsoir Rav Mordechai, Shabbat Shalom, Shavuot Tov.
Shabbat Shalom, Shavuot Tov, aux uns et aux autres.
Aux uns et aux autres, ceux qui nous écoutent le vendredi et ceux du samedi soir. Alors Rav Mordechai Biton, vous allez parler d'un sujet exceptionnel, le prix du silence. Savoir se taire, ça vaut cher.
Bah oui, parce que finalement, cette paracha qui nous raconte finalement la rencontre entre Yaakov et ses épouses, elle démarre sur une histoire littéralement pathétique. Hein. C'est finalement Rachel, que Yaakov aime. Et il est venu à Haran pour se marier avec elle, d'une certaine manière, pour construire avec elle. Eh bien, Rachel va faire en sorte que sa sœur ne soit pas humiliée, puisqu'il va y avoir un stratagème qui va être monté par Lavan, et qui, au lieu donc d'amener sous la choupa Rachel, eh bien, il va amener sous la choupa Léa, Et donc, pour que Léa ne soit pas humiliée, non seulement Rachel va lui donner les signes dont elle avait convenu avec Yaakov, en sachant que son père était un homme rusé et perfide, et Rachel, donc, va se taire. Rachel, c'est le silence. Elle se tait, c'est sa mida. Et alors, c'est absolument extraordinaire, parce que le prix de ce silence, c'est qu'elle va avoir un fils qui s'appelle Yosef, qui va être l'archétype du juif en exil, qui va donner l'armature de la résistance spirituelle du juif à l'exil, un fils qui s'appelle Binyamin, sur le territoire duquel va être construit le Beth Amikdash, le temple, et elle va avoir également, parmi ses descendants, Mordechai, pendant l'épisode de Pourim, et également Esther. Esther, c'est également celle qui brille par la mida du silence. Elle se tait. Elle ne dit rien. Ve'en Esther Magedet et Moladeta. Elle ne révèle pas à Achashverosh, à Assuérus, d'où elle vient. Et d'où vient cette capacité de silence de son ancêtre, nous disent nos sages, qui est donc Rachel. Et grâce à ce silence, elle observe, et elle va pouvoir agir au bon moment et provoquer une délivrance dont nous bénéficions encore aujourd'hui. Autrement dit, on nous dit que finalement, le moteur de l'histoire du peuple juif, c'est le silence de Rachel. Et là, il y a une énigme. Parce que finalement, le moteur de l'histoire du peuple juif, c'est Léa. Léa a eu 6 enfants, parmi lesquels il y a les rois, il y a les Léviim, il y a la majorité des tribus du peuple juif, qui sont les tribus actives du peuple juif. Et Léa, c'est également celle qui a amené dans le monde la Oda, jusqu'à ce que la Oda, c'est la reconnaissance, la capacité à être reconnaissante. Nos sages nous disent, jusqu'à ce que Léa apparaisse dans le monde, la reconnaissance n'était pas là. Elle a introduit la notion de reconnaissance dans le monde. Et donc ce sont des midot, des traits de caractère qui sont tout à fait fondamentaux. Pourquoi est-ce que le silence ici est d'or, en quelque sorte, si on peut dire? Pourquoi? Et c'est même très très loin, vous voyez, on récite le Birkat Hamazon. Quand on mange du pain, on récite le Birkat Hamazon. Il y a un verset qu'on dit, on dit « Poteach et yadecha o masbia lechol chayatson ». Tu ouvres tes mains et tu rassasies donc généreusement toutes tes créatures. Eh bien, Poter et Tedra, Umasbia, Lechol, Chai, Ratson, la fin du verset, c'est les initiales de Rachel. Et une des cavanotes, des intentions qu'on doit avoir quand on dit ce passouk, ce verset, c'est qu'en fait le monde entier, et le peuple juif notamment, et chacun d'entre nous, est nourri par le mérite de Rachel. C'est-à-dire par le mérite de son silence. C'est-à-dire qu'en vérité, le prix du silence ici, il est à la fois à l'échelle de l'histoire du peuple juif, à l'échelle de l'histoire même du dévoilement messianique, et en même temps à l'échelle très quotidienne de ce qu'on va manger. Donc il y a là ici une leçon qui nous est donnée dès le départ dans l'histoire du peuple juif. C'est qu'en fait, très souvent, par le silence, l'individu obtient beaucoup plus que par le bruit. C'est que très souvent, par exemple, dans ce qu'on dit, il y a ce qu'on ne dit pas, et souvent ce qu'on ne dit pas, mais qui est entre les mots et qui est bien compris par l'interlocuteur, a beaucoup plus de poids que ce qui est dit. Comme si, en quelque sorte, ce qui était resté voilé, avait finalement un impact majeur dans la vie d'un individu, dans sa personnalité. Si finalement la tsniout, la pudeur, eh bien, c'était finalement pas le moteur principal de la vie de chacun d'entre nous. Et là, il y a une dimension qui est une dimension principale. En fait, la dimension principale de Rachel, qu'on appelle la tsniout, qui est la pudeur, en fait, elle s'exprime par cette capacité à dire sans dire, à être là, mais finalement à s'effacer. Et finalement à construire, bien qu'en fait en apparence elle n'apporte rien entre guillemets, pas autant que sa sœur Léa. Et donc il y a là ici un élément qui est un élément majeur donc de la construction de la personnalité. Finalement, là où on s'est fait faire preuve de tsniout, là où on s'est fait preuve de pudeur, là où on s'est fait preuve de discrétion, on obtient beaucoup. Nos sages nous utilisent souvent pour parler des tsnouim, c'est-à-dire des gens qui sont pudiques, les chachamim. Les chachamim sont tsnouim. Les sages, les intelligents, sont tsnouim. Ils ont une certaine pudeur. Ça rime, c'est deux mots qui sont des mots synonymes. Et là, on le retrouve également. On voit que finalement, la personne qui est finalement en absence, eh bien, c'est une personne qui est présente et qui va avoir un poids déterminant pour faire pencher la balance. Alors, pour le prix de ce silence-là, elle finit par avoir un fils qui est Yosef. Et Yosef, on l'a dit au début, c'est l'archétype du juif dans la galoute, dans le monde du bruit, hein, qui est celui qui fait finalement, qu'est-ce qu'il a fait Yosef finalement? Finalement Yosef il a fui devant la femme de Potiphar. Finalement Yosef il a révélé quelques rêves, c'est-à-dire qu'il a révélé ce qui est caché. Et cette capacité-là, à la fois à vivre avec pudeur dans un monde indécent, et en même temps cette capacité à révéler la face cachée des choses, elle lui vient précisément de sa mère qui est dans la tsniout, qui est dans l'intériorité. Et le Maharal de Prague va très très bien expliquer dans le Native Attitude, dans les sentiers de la pudeur, explique très très bien que la pudeur, c'est une composante essentielle qui n'est pas de l'individu, mais qui n'est pas une composante sociale. C'est pas je me cache des autres. C'est je fais des choses qui sont importantes, mais l'essentiel de ma vie est à l'intérieur de moi. On le dit bien, d'ailleurs de ça, je me dis bien que l'essentiel finalement de la relation entre un individu et Hachem, c'est ce qu'il fait quand il est tout seul. Quand il est tout seul, est-ce qu'il pense à Hachem, est-ce qu'il prie à Hachem ? Sa vérité, elle se dit à ce moment-là. Donc il y a dans cette dimension-là de Rachel, finalement, l'émergence de la dimension de la tzniut, mais la tzniut, la pudeur, vécue comme étant quelque chose de très authentique, c'est-à-dire que le moteur intérieur, c'est précisément l'intériorité, la recherche de l'intériorité, le refus de la superficialité, d'être très à l'intérieur des choses, d'être très en prise avec soi-même, avec sa vérité intérieure, d'être en prise aussi avec l'intérieur des choses. On le voit aussi dans l'étude de la Torah, c'est la même chose. On peut étudier la Torah très superficiellement, on peut faire ce qu'on appelle du yun, c'est-à-dire aller au fond des choses et finalement mieux comprendre la face cachée des choses. Et l'essentiel finalement de la Torah écrite, c'est la Torah orale, parce que la Torah orale, c'est l'intérieur de la Torah, c'est le sens auquel n'ont pas eu accès toutes celles et tous ceux qui se sont emparés de la Torah quand elle a été traduite à l'époque de la traduction des Septante, environ 283, je ne m'abuse, à peu près avant notre ère. Le monde entier s'est jeté sur cette Torah, mais finalement, nos sages nous disent qu'ils n'ont eu accès qu'à l'extérieur des choses. L'intérieur, c'est la Torah orale. Et donc, il y a dans la dimension de Yosef, dans la dimension de Rachel, cette dimension aussi de l'intériorité de la Torah. D'ailleurs, c'est très intéressant parce que je vais conclure avec ça. Quand Yosef, donc les ossements de Yosef ont été transportés dans le désert, ceux qui le transportent étaient impurs, puisqu'ils transportaient un mort. Et donc, ils vont venir voir Moshe Rabbeinu et ils vont lui dire « Mais nous, on ne peut pas faire le sacrifice de Pessah dans le désert, puisqu'on est impur, on est en état d'impureté rituelle. » Et donc, va se révéler, grâce à Yosef, et donc grâce à ceux qui le portent, une halakha, une loi qui est celle de Pessah Sheni. Le deuxième Pessah qu'on pouvait faire, si on était en état d'impureté rituelle, au premier Pessah. C'est-à-dire que, grâce à Yosef, et finalement grâce à Rachel, grâce à cette Mida, ce trait de caractère de l'intériorité, va se révéler une loi, la première finalement loi de la Torah orale. C'est quoi la Torah orale ? C'est quand un juif vient et demande « Qu'est-ce que la Torah veut de moi ?» Et là, ces juifs, ils vont venir et vont dire « Comment on fait ?» Ils vont révéler une loi qui n'a pas encore été révélée. Ils vont révéler l'intérieur de la loi. C'est la loi orale. Donc cette dimension de Rachel, c'est une dimension qui est fondamentale et fondatrice pour le peuple juif, mais aussi pour chacun d'entre nous. Elle est certainement la plus structurante de toutes les midotes, de tous les traits de caractère dont on doit faire preuve. La discrétion, la pudeur, l'intériorité, la recherche de l'intériorité, finalement la vérité ultime.
Mais Rav Mordechai Biton à Jérusalem, je vous remercie. Bonsoir à vous.
Bonsoir.
Et nous sommes en ligne à présent avec Maria Chadret. Bonsoir Maria Chad.
Bonsoir Bernard.
Bonsoir Maria Chad. Shabbat Shalom, Shavua Tov. Maria Chad, Vayetse, on a compris, ça veut dire « et il sortit ». Mais vous y avez vu quelque chose de plus profond. Vous nous dites « oui, mais Vayetse, il va sortir ». C'est aussi sortir de quoi ? C'est pas seulement une anecdote, la Torah, Rasve Shalom. Donc c'est un enseignement. Et vous nous dites... Vous allez nous dire, c'est sortir de ces zones de confort. Alors, on peut dire qu'en ce moment, on est bon, là. On va vous écouter, on va être tout ouïe.
Absolument, dans cette période trouble. Bien oui, Vayetse, c'est ça, parce que, en fait, c'est écrit, il faut juste avoir une lecture, on va dire, un petit peu plus profonde. Mais il y a écrit, Vayetse Yaakov Miber Sheva. Yaakov est sorti de la ville de Beer-Sheva, mais alors on se rappelle du contexte, c'est son frère Esav qui lui en veut à mort et sa maman Rivka qui lui dit par le temps qu'il se calme. Bon, malheureusement, comme on le sait, Esav, ça fait pendant plusieurs milliers d'années, ne va pas se calmer. Mais il va, et puis comme deuxième injonction de sa maman, va trouver une épouse chez mon frère Lavan. Donc il sort. Et il sort précisément de Beer-Sheva. Beer-Sheva, une ville que l'on connaît bien au sud d'Israël, mais que l'on peut lire également Beer, donc le puits de Sava. Sava en hébreu, c'est-à-dire il y a soit le Shin, soit le Sin. Vous savez que l'hébreu nous permet cette double lecture puisque le texte de la Torah n'est pas ponctué sur le livre de Torah. Donc on peut lire Sheva, mais on peut lire également Sava. Et ben, c'est un jeu de mots en français, comme quand on dit en français Sava. eh bien, en hébreu, ça veut dire que ça va, c'est-à-dire je suis rassasié. Lisboa, c'est être rassasié. Donc, il est sorti du puits du rassasiement. Il est sorti de l'endroit qui le rassasiait pleinement. Alors, on peut dire que c'était eh bien le cocon familial, le cocon de papa Yitzhak, maman Rivka. Il était, comme on le sait, Yoshev Walim, assis dans la tente. Donc, il était entouré de Torah, il était dans son élément. Et voilà qu'il doit sortir de cet élément-là merveilleux qui le rassasie, et il va devoir aller se confronter au monde réel. Au monde réel, alors on sait que ce départ est accompagné d'un rêve, le fameux rêve de Jacob. Il est précisément endormi dans le lieu qui sera plus tard le mont Moria, donc le lieu du temple. Et voilà qu'il fait un rêve étrange avec une échelle de bas en haut qui monte jusqu'au ciel avec des anges qui montent, qui descendent. Alors bien entendu, si on fait un rêve d'une échelle, bon, vous et moi, je ne sais pas ce que ça signifie, mais si Jacob rêve d'une échelle jusqu'au ciel alors qu'il dort précisément au niveau du temple, et on sait que le temple, eh bien, c'est la porte vers le ciel, c'est-à-dire c'est le trait d'union, c'est le lieu du trait d'union entre le ciel et la terre, entre le monde physique palpable et le monde spirituel. Eh bien, il se trouve dans cet endroit et voilà qu'il y a une échelle qui relie le ciel à la terre. Et précisément, Yaakov, qui était, on va dire qu'il appartenait plus au ciel qu'à la terre, hein, il était investi énormément dans ses livres. C'est l'homme de la Torah, c'est l'homme du Emet, c'est de la droiture, c'est de la vérité. Et voilà qu'il va être obligé de sortir de cet endroit, de ce nid, pour ainsi dire, un petit peu perché au ciel, et il va devoir descendre sur terre, très concrètement, et descendre sur terre, pour lui comme pour nous, ça signifie le mariage, ça signifie la parnassa difficile avec Lavan qui va essayer de le tromper de nombreuses fois. À Saramonim, dit Yaakov, on lui a changé de salaire des centaines de fois. Donc des problèmes de parnassa, des problèmes de mariage, la mariée, une autre mariée, la vanne qui le trompe, et bien sûr les naissances, les enfants, le quotidien en réalité. Sortir de sa zone de confort, c'est sortir de l'endroit où on n'est pas mis à défi, où il n'y a pas d'enjeu majeur, pour atteindre un lieu dans lequel tout va être un enjeu. Et alors notamment pour Yaakov, l'enjeu de cette paracha, de cette sortie de zone de confort, c'est que lui, qui est, comme on le sait, symbolisé par le Emet, par la vérité, par la droiture, eh bien, on va le mettre face à l'homme le plus fourbe qui soit, à savoir Lavan, qui n'a de blanc que son nom, bien sûr, qui va le tromper dans tous les domaines, et il va devoir maintenir sa ligne directrice de droiture face à ce Lavan. Mais Yaakov n'est pas le seul dans cette paracha qui sort de sa zone de confort. Il y a, je voudrais parler ici d'un personnage très important de la paracha, une de ses deux épouses, Léa, qui, elle, va faire vraiment un revirement à 180 degrés au niveau de sa zone de confort. Parce que Léa, elle aussi, vit quelque chose de très très difficile. Quand à la lecture des versets, on est même mal à l'aise. On est mal à l'aise parce que d'abord, elle est présentée dès le début de la paracha comme étant aînée Léa Rakot. On ne parle que de ses yeux. Les yeux de Léa sont ramollis. Ils sont ramollis, dit le Midrash, par les larmes, les nombreuses larmes qu'elle a versées, car elle est très très inquiète de finir épouse de Ésaü. Qui a une réputation qui a dépassé les frontières d'Israël, elle sait qu'il se comporte mal, et donc elle pleure énormément. Mais y a-t-il autre chose que l'on puisse dire sur cette Léa ? Non, elle est définie dans la Torah par sa souffrance énorme à imaginer qu'elle pourrait tomber sur Ésaü. Et dit le Zohar à Kadosh, pour comprendre un petit peu mieux la souffrance de Léa et son personnage tout au long de la paracha, il faut comprendre que le Zohar à Kadosh la symbolise, elle, contrairement à sa sœur, elle est symbolisée par ce qu'appelle le Zohar « Alma Deit Kassé », le monde caché. Le monde caché, c'est-à-dire, dans le langage du Zohar, l'avenir. Elle est très, très, très projetée sur son avenir, alors que Rachel est beaucoup plus ancrée dans le présent, dans l'immédiateté. Elle est tout le temps en train de se projeter, c'est ce qui fait qu'elle pleure autant sur un avenir qui n'est même pas certain. Mais surtout, c'est ce qui nous explique que Léa, à chaque fois qu'elle va finalement quand même avoir le bonheur, bah d'abord le bonheur d'être mariée à Jacob, hein, donc enfin, voilà, elle est sauvée de Ésav, bon, mais pour autant, sa souffrance ne cesse pas dans la paracha. Pour autant, à travers les naissances de ses trois premiers enfants, elle exprime, elle verbalise réellement sa souffrance. Le premier, Réhouven. Réhouven, c'est une forme de SOS, d'appel d'SOS. Réhouven, regardez, j'ai un fils, mais ça ne s'arrête pas là. Kira'a Hachem Be'oni, parce qu'Hachem a vu ma souffrance, et maintenant, j'ai envie de dire, et enfin maintenant, mon époux va m'aimer. C'est-à-dire que Léa, elle le dit clairement, elle ne se sent pas aimée. Alors, évidemment, Ramban Nachmanide nous rassure, il dit que c'est interdit pour un homme d'être marié à l'époque de la bigamie. Bien sûr, c'était interdit d'être marié avec deux femmes si une d'eux n'était pas aimée, mais elle se sent pas aimée. Ce n'est pas qu'elle n'est pas aimée, dit Ramban. C'est qu'elle sent, c'est-à-dire qu'elle a avec elle cette idée depuis toujours qu'elle n'est pas légitime et elle traîne ça avec elle. Et c'est un petit peu le rôle qu'elle s'est donné, la fonction qu'elle remplit. Je suis victime d'une place qui n'est pas légitime. J'occupe cette place-là et pour tout, on dirait pour toujours. On dirait que même si elle s'est mariée avec Jacob, même si elle a eu la chance d'avoir ce premier fils, voilà que le deuxième arrive. Et encore une fois, elle le nomme Shimon, qui chama Hachem, parce que Dieu a entendu qui s'énoie à Nochi, que je suis détestée. Donc, pour le premier, elle dit « J'espère que mon mari m'aimera ». Pour le deuxième, « Je suis détestée ». Voilà une Léa qui est bien ancrée dans sa certitude de ne pas être aimée. À partir du troisième enfant, il y a une petite, un petit changement qui s'opère. Elle le nomme Lévi en disant « Maintenant, mon mari m'accompagnera ». Alors, voilà, elle commence à envisager la présence de Jacob à côté d'elle, comme étant une évidence, mais le changement total qu'elle va opérer sur sa nature d'être projetée sur l'avenir et d'être finalement figée dans cette image qu'elle a d'elle-même de « je serai certainement malheureuse », alors qu'il s'avère finalement qu'elle va avoir un mariage heureux avec Yaakov et de nombreuses naissances, et finalement, voilà, elle va même atteindre la Meharat Amarpella, elle est l'épouse qui va rester aux côtés de Jacob pour l'éternité dans le caveau, eh bien, finalement, ce passage de sa vision d'elle-même, je dirais, comme étant la mal-aimée, vers la posture d'une femme légitime, s'opère surtout à la naissance du quatrième fils, Yehuda, parce que c'est là qu'elle dit « Hapa'a modé at Hachem, maintenant je remercie Dieu ». Alors, on a envie de lui dire que, bah, et pour les trois premiers, où il faut remercier, mais elle n'arrivait pas encore, pour ainsi dire, hein, puisque notre propos, c'est cette paracha qui nous force à sortir de nos zones de confort qui ne sont pas forcément celles qui nous font le plus avancer. Eh bien, Léa n'arrivait pas à voir le présent comme étant un présent, comme étant un réel présent de Dieu. Et elle était toujours dans cette projection. Et voilà qu'arrive Yehuda, qu'elle remercie. D'ailleurs, Yehuda qui va donner son nom à nous tous, tous les Yehudim, alors pas forcément descendants de Yehuda, mais pour autant Yehudim, dans la mesure où notre génétique spirituelle doit être dans le modéani, dans le remerciement, dans la reconnaissance, c'est une valeur absolument fondamentale et essentielle. Et bien, à partir du moment où Léa rentre dans cette perspective de reconnaissance, eh bien, on va voir que les deux enfants suivants, ça va être l'apothéose de sa construction, puisqu'elle donnera naissance à Issachar, qui veut dire il y a du mérite, on m'a accordé du mérite, et surtout Zevulun. Alors Zevulun, dit Rashi, c'est ce n'est même pas Rashi, c'est le texte de la Bible qui dit pourquoi elle l'appelle Zevulun, parce que Dieu m'a accordé moi comme un don précieux. Je suis un don précieux pour mon mari et mon époux fera de moi sa compagne. C'est-à-dire que voilà une Léa pleinement ancrée dans son rôle légitime d'épouse de Jacob, de maman de 6 des 12 tribus, qui a réussi à sortir du rôle qu'elle avait pris malgré elle, ce rôle de femme dont les yeux sont ramollis par les larmes, et qui a pu réussir à rentrer dans une forme de bien-être, dans une forme de construction de sa personne à travers les éléments de sa vie qui finalement lui ont donné une nouvelle orientation à prendre, et elle a réussi donc à sortir de ce schéma, de ce mécanisme. Alors moi, je voudrais dire qu'ils sont extrêmement inspirants, tous les personnages de cette paracha. On est dans une paracha très vivante, des enfants, des naissances, un beau-père désagréable, une parnassa difficile. Voilà, c'est le quotidien. Et c'est un quotidien qui nous dit, si on arrive à accepter de sortir de nos zones de confort, eh bien, on va pouvoir sortir de tous nos mécanismes qui nous enferment dans des postures qui ne sont pas les bonnes postures. Alors, je crois qu'on ne peut que s'inspirer de ces personnages qui ont réussi à faire cet immense mouvement vers une vie meilleure.
Ben c'est très beau parce que vous allez nous aider à passer cette période là où vraiment j'entendais le ministre de la Santé qui disait arrêtez la tristesse parce qu'on va pas y arriver. Ministre, hein, le gars, son parmi ses préoccupations, il y a la tristesse des Français. Donc vraiment, j'ai beaucoup. Mais d'ailleurs, vous continuez de publier votre lettre chaque semaine avec vos réflexions sur la paracha.
Tout à fait. Alors, il y a comment je fais? Par écrit au niveau du feuillet de la paracha qui est envoyé gratuitement à tout le monde.
Très bien. Donc, comment on fait? On vous joint sur votre page Facebook, par exemple?
Par exemple, on m'envoie un message sur le. Il y a aussi un portable, 06 27 66 49 24. N'hésitez pas, on envoie à qui veut recevoir le feuillet de la paracha avec grand plaisir.
Magnifique.
Vous pouvez aussi le dédicacer, bien sûr.
Et on peut le dédicacer. Magnifique. C'est-à-dire, Barefou Hachlemin, par exemple. Très bien. Maria Chadré, je vous remercie. Bonsoir à vous.
Merci Bernard, à bientôt, au revoir.
Bonsoir. Chaque semaine sur Radio Shalom, 5 minutes, une halakha avec Rav David Abendanan. Bonsoir Rav David.
Bonsoir Bernard.
Bonsoir à vous. Alors, on va voir un sujet qui, semble-t-il, au moins de manière détournée, est lié à notre paracha de cette semaine. Parce qu'on va parler du mensonge. Alors, Yaakov, on le voit bien, a utilisé des subterfuges. Et on va commencer, mais on va parler de nos mensonges à nous, hein, pas du niveau de Yaakov. Donc, moi, par exemple, est-ce que j'ai le droit de mentir? Est-ce que c'est un interdit de la Torah de mentir? Si je fais de mal à personne, est-ce que je peux mentir?
Pourquoi mentirez-vous, Bernard? Voyons, quelqu'un comme vous, c'est quelqu'un qui ne ment pas.
Oui, non, j'ai pas besoin.
De d'autres personnes. Ça pourrait peut-être arriver à d'autres personnes, mais pas à vous.
Alors, est-ce que mentir est interdit finalement? Si je fais de mal à personne, je suis juste mythomane. Est-ce que j'ai le droit?
Voilà. Mythomane, on va dire, pour blaguer, faire une blague ou faire un mensonge qui va être un mensonge sans conséquence. Alors, quand on regarde le texte de la Torah, parce que c'est quand même de là que tout commence, on a quand même deux psukim qui sont assez explicites. Hein. On a un pasuk qui me dit « Midvar sheker tirchak », d'une parole mensongère, tu t'éloigneras. Et on a un pasuk qui me dit « Velo teshakeru ishba amito », vous ne mentirez pas un homme envers son prochain. A priori, si on s'arrête là, on ferme le dossier, le cours s'arrête, c'est même pas 5 minutes une halakha, c'est 1 minute une halakha. Seulement, c'est un petit peu plus complexe que ça, puisque beaucoup de commentateurs veulent nous dire et nous expliquent que ces psukim, ces interdictions, sont cités dans des contextes de la Torah dans lesquels la Torah s'adresse à des dayanim, à des juges, dans lesquels on a donc une interdiction à des juges de mentir dans le cadre d'un bet din. Donc là, ce sont des paroles qui sont très lourdes de conséquences. Mais est-ce qu'un mensonge qui est sans conséquence, ça va être un mensonge qui va être interdit? Eh bien, là-dessus, on trouve des discussions hein, dans les poskim. On a d'un côté le Chafetz Chaim qui comprend que c'est interdit. Même interdit d'après la Torah, hein, à cause de l'expression Midvar Sheker Tirchak, cette obligation de s'éloigner d'une parole mensongère. Et d'après lui, même un mensonge pour rigoler, eh bien c'est un mensonge qui est interdit. D'un autre côté, on a le Sefer Yereim, Rabbi Eliezer Mimetz. C'est un des Baalei Tosfot qui vivait en France et qui vivait dans la ville de Metz, comme son nom l'indique, qui nous dit que l'interdiction de Midvar Sheker Tirchak, cette obligation de s'éloigner du mensonge, c'est uniquement pour un mensonge qui peut causer des dommages, un mensonge qui peut être quelque chose de préjudiciable. Mais un mensonge qui est non préjudiciable, lui dit qu'il ne voit pas d'interdiction. Là-dessus, on a des commentateurs qui comprennent le Yérim en disant qu'il n'y a pas d'interdiction de la Torah, mais il y a quand même une interdiction des Chachamim. Et on a d'autres commentateurs, Rabbi Yerucham Perla, c'est un rave qui est né en Pologne et qui est monté dans les années 30, qui est monté en Eretz Israël, qui est Niftar là-bas, ça fait à peu près 80 ans. Peut-être un petit peu moins, 80-90 ans, et lui qui comprend que carrément il n'y a pas d'interdiction à mentir dans la mesure où ce mensonge n'a pas de répercussions et n'entraînera pas de préjudice. On parle d'un mensonge simple, hein, un mensonge qui n'a pas de préjudice, qui n'entraîne rien de préjudiciable. Donc là, si je veux prendre un petit peu de recul, on a d'un côté certains qui pensent que c'est interdit min haTorah, d'autres qui pensent que ça va être autorisé dans la mesure où il n'y a pas de préjudice derrière. Libre à chacun de choisir dans quel sens il veut là où il veut se situer.
Est-ce qu'il y a des situations dans lesquelles il est recommandé de mentir. On a le droit, et puis peut-être même un rave nous dira, la Torah nous dira, c'est mieux de mentir.
Vous connaissez, Bernard, la fameuse chanson qu'on chante lors des mariages, dans laquelle on dit « Ketzad meragdim lifne akala, kala na vachasuda, comment danse-t-on devant la kala ?» en disant que c'est une kala qui est belle. Et là-dessus, c'est à savoir que cette phrase, c'est une marloquette entre Beit Shammai et Beit Hillel. Peut-on vraiment dire que la kala est belle et l'instaurer comme une phrase qu'on répète à chaque mariage si la kala n'est pas belle ? Est-ce qu'on aura-t-on le droit comme ça de mentir de cette façon-là ? D'après Beit Hillel, oui, on a le droit. D'après Beit Shammai, non, il faut dire Kala Kemotchei, la Kala est comme elle est. Donc on voit bien cette notion, d'après Beit Hillel, d'autoriser le mensonge pour encourager la personne et on va dire, lui donner de la tranquillité et de l'assurance dans un jour aussi important que le jour du mariage. On a d'autres situations où on a cette autorisation de mentir. On sait qu'on peut mentir mipne à Shalom pour éviter des marloquettes, pour éviter des disputes. On peut mentir. On sait que, par exemple, à la mort de Yaakov Avinu, les frères de Yosef sont venus le voir et lui ont dit « Papa a dit de ne pas nous faire du mal malgré tout le mal qu'on a pu te faire », alors qu'on trouve dans la Torah, on ne trouve pas que Yaakov leur a dit pareille chose. On a aussi certains poskim qui nous disent, par exemple, hein, que si quelqu'un vient vous demander de l'argent, il veut vous emprunter de l'argent, et vous ne lui faites pas confiance, au lieu de lui dire « je ne te fais pas confiance », lui dire « je n'ai pas ». Voilà, c'est une façon, donc c'est un mensonge, hein, bien si vous avez, mais si je ne l'ai pas, c'est une façon qui va être plus propre de refuser le prêt, ça va éviter d'avoir de vexer la personne. Donc dans ces situations, à part ça, on a la Gemara, la fameuse Gemara dans Bava Metzia, Noël ou Metziot, qui nous dit qu'un Talmid Chacham, il y a des situations dans lesquelles il a le droit de mentir. Mais bon, on va réserver ça au Talmid Chachamim. En tout état de cause, il y a des situations où pour le bien, attention, hein, il n'y a pas de préjudice derrière, mais là c'est pour le bien, il y a même une autorisation, voire un encouragement de la Torah à mentir.
Alors je parle sous votre contrôle, hein, mais je crois me souvenir que Beit Hillel, on lui dit « Mais pourquoi tu mens ? C'est interdit de mentir au mariage, pourquoi tu dis qu'elle est belle la mariée alors que tu sais très bien qu'elle n'est pas belle ?» Et il aurait répondu « Parce que, enfin Beit Hillel, donc ils sont plusieurs, parce que dans les yeux du marié, elle est belle, donc elle est belle. Beau bon, judaïsme.
Bravo Bernard.
Non, bravo la Gemara, bravo le judaïsme.
Vous allez avoir un diplôme.
Quelle belle religion. Alors, on continue. Par exemple, tricher. Tricher, je fais de mal à personne à nouveau. Est-ce que j'ai le droit de tricher dans un examen ? Est-ce que, après tout, il n'y a pas de conséquences à part. Y a pas, pour les autres, vous disiez ça va avoir des répercussions sur les autres, mais je ne leur fais rien. Je vais juste avoir le bac.
Bernard, vous allez vous enfoncer en fait dans l'autre d'après la vie de ceux qui pourraient permettre un mensonge sans conséquence. Je triche, alors on va pas dire le bac, c'est un examen officiel, mais on va prendre même un petit examen à l'école. Est-ce que je vais avoir le droit de tricher ? J'ai rien volé à personne, j'ai juste menti, j'ai fait croire que je connaissais alors que je ne connaissais pas. Là-dessus, on rentre dans une autre notion qui va s'appeler l'interdiction de gnevat da'at, l'interdiction de voler le savoir des gens, de leur faire croire quelque chose qui est quelque chose de faux. La Gemara, hein, nous donne beaucoup d'exemples, hein, beaucoup d'exemples dans lesquels, par exemple, je reçois un invité, j'ouvre un nouveau tonneau, je dois lui expliquer, je l'ouvre parce que j'ai fini l'ancien, ne crois pas que je vais l'ouvrir pour toi. Ce sont des situations où la personne pourrait croire que je suis en train de faire quelque chose de grand pour elle, mais non, je n'ai pas le droit de lui voler son esprit et de lui faire croire que je fais quelque chose de grand pour elle. Dans le même état d'esprit, Rav Moshe Feinstein se prononce de façon assez virulente sur l'interdiction de tricher pendant les examens, et il nous dit qu'on est en plein dans l'interdiction de gnevat da'at, de voler l'esprit des personnes. Là-dessus, Rav Moshe Feinstein, dans les Grottes Moshe, rajoute d'autres interdictions. Et il dit que lorsque quelqu'un triche dans des examens, pour peu que ces examens aient un côté officiel, eh bien, ça va lui donner un diplôme qu'il ne mérite pas. Et du coup, ça va faire qu'il aura un salaire qu'il ne mérite pas. Et du coup, il finira par voler de l'argent parce que son salaire, il ne le mérite pas. Et puis, il dit aussi que quelqu'un qui prend l'habitude de tricher, c'est quelqu'un qui ne pourra pas prendre l'habitude de se fatiguer dans son étude de la Torah. Et donc, forcément, c'est extrêmement déconseillé, voire même, lui, il termine en disant que c'est complètement interdit.
Ouais, ouais. Et moi, j'entends aussi tricher dans le métro. On dit, mais de toute façon, le métro, il passe, c'est pas grave, j'ai fait de mal à personne. Ben, c'est du vol, mon gars. Et par exemple, le bac, j'avais envie de vous dire en vous écoutant, c'est surtout le bac que t'as volé, oui. Alors, par contre, je vais vous poser une question, j'espère que vous avez pas mal le prendre, parce que c'est une question qui me travaille, c'est une vraie question qui me gêne. Donc, on voit bien que Yaakov Avinu, alors, le prenez pas mal, hein, ne soyez pas choqués, finalement, magouille. Excusez-moi, c'est n'importe qui ferait ça. Change les bâtons pour avoir plus de bétail, fait en sorte d'avoir la bénédiction en se déguisant de manière grossière, même à la limite profite de la fatigue de son frère pour toujours pareil. Bref, ça fait quand même énormément de, des gens qui s'arrangent avec la réalité. Alors, bon, je comprends pas, j'ai pas son niveau, vous voyez, je prends vraiment toutes les précautions. Si je vous pose la question, c'est parce qu'elle... Il faut répondre aux questions. Et alors, Je veux bien, voilà, c'est comme ça et j'ai pas tout compris. Mais alors qu'on l'appelle carrément Ish Emet, il y a un moment où on dit, attends, on peut l'appeler, je sais pas moi, Yaakov Avinu, c'était le plus grand recette du monde. Pourquoi on a choisi précisément lui de l'appeler Emet, la vérité, l'homme de la vérité?
Effectivement, nous disons tous les jours dans la Tfila, Titen, Emet le Yaakov. Yaakov est caractérisé par l'amida du Emet. Or, Yaakov, lorsqu'il est parti pour, par exemple, hein, prendre la bracha, vous faites bien de le souligner, quand sa mère, Rivka, lui a dit « il faut que tu ailles prendre la bracha », Yaakov lui a dit « je ne peux pas me faire passer, non, tu vas profiter du fait que ton père ne voit pas et ça ne l'a pas dérangé, il est parti, il a mis les habits des saves, il est parti, il a rusé ». En réalité, c'est une question d'abord qui n'est pas une question de halakha, Bernard, on sort de l'halakha, mais pour vous faire plaisir, nous allons faire une entorse à nos habitudes. Alors, Rav Pinkus s'allonge sur le sujet, écrit sur le sujet, il écrit en réalité, je vais essayer de faire de façon très courte, que vous savez, le soir, lorsqu'on fait la tfilat de Arvit, on dit « Emet ve'emuna ». Et le matin, lorsqu'on fait la tfilat de Shacharit, « Emet ve'yatsiv ». Pour ceux qui ne sont pas hébraïsants, je vais expliquer ce que ça signifie. Lorsque quelqu'un est dans l'obscurité, si on lui dit qu'il y a un obstacle devant lui, la seule manière de le savoir qu'il y a un obstacle devant lui, c'est de croire celui qui m'a donné l'information. Alors que quand il fait jour, comment je peux savoir s'il y a un obstacle devant moi? Ben, je le vois. Rav Pinkus explique que le monde dans lequel nous vivons, c'est un monde d'obscurité. Ça veut dire que ce que nous voyons, eh bien, c'est souvent du shéker. C'est un monde de shéker. Je rapporte les paroles de la Gemara qui nous dit que dans le monde futur, souvent, Elionim, ceux qui sont en haut dans ce monde-ci, eh bien, ils se retrouvent en bas, ceux qui sont en bas se retrouvent en haut. Ce qu'on voit dans ce monde, ce sont souvent des visions qui sont fausses, des visions qui sont shéker. La vraie vision du Emet, c'est la vision de la Torah, et c'est la vision que Akadosh Baruch Hu voudrait qu'on ait de ce monde, que Dieu voudrait qu'on ait de ce monde. Lorsque Rivka a vu que Esav avait réussi à gruger son père Yitzhak, et que Rivka a dit à Yaakov, regarde, il faut que tu ailles prendre la bracha, en fait, elle est en train de lui dire, le Emet dans cette histoire se situe là. Ça veut dire que pour arriver au vrai Emet, il va falloir que tu aies recours à des méthodes qui pourraient être considérées comme des méthodes de Sheker, mais qui sont la volonté d'Hachem. Et c'est ça la vraie recherche du Emet. Alors à notre niveau, on n'est pas dans une situation où on a autant d'épreuves que Yaakov, au point de devoir tellement nous battre pour arriver au Emet. Mais Yaakov, dans sa vie, sa recherche de Emet a dû se faire par des techniques, par des choses qui nous semblent pour nous complètement folle, des ruses extrêmement poussées, mais en réalité il n'y avait là qu'une recherche de Emet, c'est-à-dire qu'une recherche de la volonté d'Hachem, et la volonté d'Hachem était là, et la preuve en est qu'on ne peut pas voler une bracha, Bernard. Ça veut dire qu'une bracha, c'est qu'on demande à Kadosh Baruch Hu, les mots de la bracha, c'était Veiten Echa Elohim, que Hachem te donne. Mais si vraiment il a grugé son père, eh ben, que Hachem te donne, il pensait à Esav, Hachem aurait dû donner à Esav. C'est bien là qu'en réalité, la volonté d'Hachem, c'était de donner à Yaakov, et que Yaakov n'était qu'en train de rétablir la vérité. Et la vérité, ce n'est pas forcément ce qu'on voit. La vérité dans ce monde, qui est un monde obscur, c'est la volonté d'Hachem.
Magnifique. Eh bien, j'ai bien fait. Merci, Rav David Abendana. On a une vraie réponse sur une question qui... Bon, c'est pas la première fois qu'on la pose, j'imagine, mais qui est là, quand même. Rav David Abendana, merci à vous.
C'est moi qui vous remercie, Bernard.
Et Shavuatov pour ceux qui nous écoutent le samedi soir, sinon Shabbat Shalom pour ceux qui nous écoutent le vendredi. Bonsoir à vous.
Shabbat Shalom et Shavuatov. Bonsoir, au revoir.
Voilà, cette émission est à présent terminée. Excellente soirée à tous et c'est à mon tour de vous dire Shabbat Shalom ou Shavuatov selon l'expression consacrée dans cette très belle émission.
Shalom leboy na boy, Hashem lo yishmari, Shalom shokat shoy bet.